Bonjour. Oui, les enfants peuvent se lever pour aller rejoindre leur groupe du dimanche matin. Notre bon vieux cartésianisme ne conçoit pas aisément que deux vérités dissemblables puissent coexister harmonieusement à l'intérieur d'un même tout. Est-ce que vous souhaitez que je la répète ? Notre bon vieux cartésianisme ne conçoit pas aisément que deux vérités dissemblables puissent harmonieusement cohabiter dans un même tout. Nous avons naturellement tendance à les opposer, comme si l'une devait nécessairement dominer l'autre jusqu'au point de l'annihiler. Ce matin, nous allons nous attarder sur le thème de l'amitié. L'amitié, parent apparemment pauvre de l'amour dans la parole de Dieu. On peut dire de l'amitié qu'elle est protéiforme, c'est-à-dire qu'elle est susceptible de se présenter dans des formes qui sont dissemblables les unes des autres. Prenons trois exemples. Si nous considérons l'amour de deux personnes appelées à former un couple, eh bien cette forme d'amour est distincte de l'amour, par exemple, que des parents ont pour leurs enfants, et ô combien encore plus distincte de l'amour que Dieu a pour sa créature. L'amitié, elle, est moins plurielle, moins plastique. Or, pour employer un mot qui fait un peu d'effet, on pourrait dire qu'elle est univoque, c'est-à-dire elle est toujours dans le même sens, même si ça et là, elle peut présenter quelques variantes au niveau de ses expressions. Alors, notre premier développement, qui sera court, nous allons l'appeler grand A, et nous allons l'appeler l'amour protéiforme. Si nous prenons l'amour de deux personnes amoureuses entre elles formant un couple, on peut dire qu'elles obéissent successivement à trois lois presque universelles. La première de ces lois, c'est la loi de la séduction. C'est comme ça qu'on va entrer en contact. Et une fois que cette séduction est accomplie, elle s'ouvre sur la deuxième loi qui est celle de la sexualité. Et cette sexualité débouche sur une troisième et non moins universelle loi qui est celle de la survie de l'espèce. Genèse 1, verset 28, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » L'amour des parents vis-à-vis, c'est notre deuxième exemple, l'amour des parents vis-à-vis des enfants obéira lui plutôt à l'idée de protection, de nutrition, d'éducation, ou si vous préférez, de transmission du savoir, des codes sociaux et culturels. Quant à l'amour de Dieu, qui serait notre troisième point, on va le mettre entre parenthèses et le garder pour un peu plus tard, un peu plus loin. Tel était notre grand A, l'amour protéiforme. Le grand B sera un peu plus conséquent, c'est l'amitié univoque. Alors nous l'avons dit, elle est moins plurielle que l'amour. Mais elle peut présenter des variantes d'expression dans ce qu'un peu trivialement, nous allons appeler son fond de soupe. Petit a, le fond de soupe. Que nous dit le dictionnaire ? Le dictionnaire dit, à propos de l'amitié, c'est un attachement mutuel, on a déjà l'idée de réciprocité, c'est un attachement mutuel, un sentiment d'affection et de sympathie. Ok, c'est bien, mais un peu court. Alors on pourrait ajouter que l'amitié fait penser à l'idée de partage, ou d'affinité, de communauté, de goût, d'intérêt, de ressenti, d'engagement. Il est des amitiés qui naissent dans de mêmes tranches générationnelles, ou dans le même milieu professionnel, associatif, dans une même catégorie sociale, ce qui nous permet de dire que l'entre-soi est en général un bon terreau pour l'amitié. On peut encore dire que l'amitié induit des comportements de fidélité. Ça aiguise, ça affine le goût de l'autre. On multiplie des occasions de se rencontrer, on se téléphone, on se textote, on mange ensemble, on rit ensemble. Qu'est-ce que c'est agréable de rire entre amis. C'est un lien, en tout cas, fort et pérenne, et vous savez qu'il y a des amitiés à la vie, à la mort. Cependant, à l'intérieur de ce panel, il ne faut pas omettre de dire que l'amitié reste quelque chose d'hyper sélectif. On n'est pas l'ami de tout le monde. Les vrais amis, les vrais, sont une denrée rare. Toujours à propos de l'amitié et toujours dans notre fond de soupe, voyons un peu ce que nous proposent et la psychologie et la philosophie. Le médecin psychiatre Christophe André dit de l'amitié, c'est une construction commune non sexuée. C'est très intéressant ça. Et ça serait aussi intéressant d'en débattre. Ça donnerait un débat passionnant. Le philosophe Michel Onfray, sans consulter le précédent, dit quelque chose d'assez proche. Il dit de l'amitié que c'est de l'amour sans corps. De l'amour sans corps. Tel était notre petit A, le fond de soupe. Grand A, l'amour protéiforme, grand B, l'amitié univoque, petit A, le fond de soupe, petit B, deux exemples tirés de l'Ancien Testament. Et vous ne serez pas étonnés si je vous dis que le premier de nos exemples est celui de l'amitié qui unissait David et Jonathan. Alors je vous livre là un résumé un peu rapide du chapitre 23 du premier livre de Samuel. C'est pour aller vite et avoir une idée un peu concise. David alla avec ses hommes à Keïla. On dit à Saül que David était arrivé à Keïla. Alors Saül dit, « Dieu me l'abandonne. » Le roi bâtit le rappel de tout le peuple pour la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mal que Saül tramait contre lui. Alors David et ses hommes quittèrent Keïla et s'en allèrent où ils purent. David s'installa dans des endroits escarpés. Saül marchait à flanc de montagne, tandis que David et ses hommes marchaient sur le flanc opposé de part et d'autre d'une vallée. David se hâtait pour échapper à Saül, mais déjà, Saül et ses hommes cernaient David. Mais, Dieu ne lui livra pas. Alors, Jonathan, fils de Saül, se rendit auprès de David à Horcha, pour affermir son courage. Il lui dit, « N'aie pas peur, Saül, mon père, ne pourra pas t'atteindre. C'est toi qui deviendras roi sur Israël. » Tout ce chapitre 23 nous montre l'inexorable progression de Saül. Il presse notre héros de toutes parts, il le talonne, il le renifle de près, mais sans jamais réussir à l'atteindre. Dieu, en effet, a mis en place une limite qui interdit au poursuivant d'atteindre le poursuivi. Et voilà qu'au sein de cet infranchissable, de cet impossible accès à David, surgissant d'on ne sait où, avec des moyens dont nous ignorons tout, avec une déconcertante facilité, l'ami, le fidèle Jonathan, débarque. Nous venons de dire que Dieu a mis autour de David un inexpugnable rempart de protection. Eh bien, franchissant comme par enchantement, c'est impossible, et ne se donnant que la peine de fleurir, voici l'ami. Verset 16, alors Jonathan, fils de Saül, se rendit auprès de David. Comme c'est simple. Mais il ne s'agit pas d'une simple visite de courtoisie. Si nous lisons le verset en entier, nous avons « Alors Jonathan, fils de Saül, se rendit auprès de David pour affermir en Dieu son courage. » Pour affermir en Dieu son courage. Il lui dit « N'aie pas peur, mon père ne pourra pas t'atteindre, c'est toi qui deviendras roi sur Israël. » Dans ce récit épique, l'ami est celui qui sait trouver le chemin pour se rendre auprès de l'autre. Et cela, quelles que soient les inextricables difficultés et des pistes à franchir. Mais cela ne s'arrête pas là. L'ami, c'est aussi celui qui sait trouver les mots pour toucher le vif de l'âme, pour donner de la vigueur, de l'espérance et du courage. Écoutons trois citations du livre des Proverbes. L'ami aime en tout temps. Il était l'ami plus attaché qu'un frère. Les conseils d'un ami sont doux. Voilà ce qu'à grands traits nous pouvions dire sur Jonathan. Reste notre deuxième référence. Et posons-nous la question, quel est son contexte? Eh bien, on la trouve cette fois-ci dans le deuxième livre de Samuel. David règne déjà depuis pas mal de temps. Il a établi de la stabilité dans le pays. Il connaît la gloire. Et voilà que, dans l'urgence, alors qu'il est déjà plus âgé, il doit fuir devant son propre fils Absalom. Résumé des chapitres 15 et 17 du deuxième livre de Samuel, en quelques phrases. Quelqu'un vient dire à David, les hommes d'Israël se sont ralliés à Absalom. Alors David dit à tous les gens de sa cour, prenons la fuite, sans quoi nous n'échapperons pas à Absalom. Partez vite, sinon il aura tôt fait de passer la ville au fil de l'épée. David montait la montée des oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte. Il marchait nu-pied. Tous ceux qui étaient avec lui avaient aussi la tête couverte et montaient en pleurant. Verset 23. Tout le pays pleurait à grand bruit au passage du peuple. Chapitre 17, versets 27 à 29. Lorsque David fut arrivé à Manaïm, Shobi, Makir et Barzilaï apportèrent des lits, des bassins, des poteries, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, du miel, du lait fermenté, du petit bétail et des fromages de vache. Ils apportèrent tout cela à David et à sa troupe afin qu'ils mangent. Car il s'était dit, ces hommes ont dû souffrir de la faim, de l'épuisement et de la soif dans le désert. Il y a au moins trois angles d'approche vis-à-vis de cette nouvelle histoire. Tout d'abord, c'est l'abondance qui surprend. L'essentiel du récit est consacré à un descriptif détaillé de tout ce qui est offert à David et à ses troupes. L'amitié ici est en lien avec la générosité. La générosité. Deuxième approche. Il a bien fallu à un moment que Barzilaï et ses hommes se laissent traverser puis envahir par de la compassion. Ils se sont émus de la détresse et de l'accablement de ce vieux roi et de sa suite. L'amitié ici est en lien avec la compassion. Troisième approche. Bien qu'étant très éloquente, une petite expression pourrait passer inaperçue. Il s'était dit. On ne peut trouver meilleure formule pour parler d'empathie. De Samuel 17, verset 29, il s'était dit, ces hommes ont dû souffrir de la faim, de l'épuisement et de la soif dans le désert. Qui dit amitié, dit empathie, compassion et générosité. Voilà ce qu'à grands traits, on pouvait dire sur Barzilaï. Alors, nous pourrions passer directement à notre dernier développement, mais ce serait oublier que nous avions fait une parenthèse à considérer plus tard. Vous vous souvenez, dans la première partie, nous avions dit que nous parlerions, que nous dirions quelques mots sur l'amour de Dieu vis-à-vis de sa créature. La parole, l'écriture, nous présente l'amour comme une des principales caractéristiques de Dieu. L'apôtre Jean dit « Dieu est amour ». Dieu est amour. C'est à ce point qu'une série fleuve de sermons plus brillants les uns que les autres n'arriverait pas à tout dire sur cet amour inépuisable. Alors, pourquoi vouloir ici en dire quelques mots ? Eh bien, pour souligner ou pour mettre en exergue un point qui n'est pas un détail. Accrochez-vous. Dieu est amour, mais il n'est pas ami. Ouh là là. Il est en haut et nous sommes en bas. L'amour de Dieu, d'une certaine manière, procède de la verticalité. De la verticalité. Trois citations de la Bible nous le rappellent. Éternel, tu t'élèves au-dessus de tout. Éternel, tu t'élèves au-dessus de tout. Deuxième citation. Dieu est souverainement élevé. Et enfin, la troisième que vous pouvez réciter par cœur, Ésaïe 55, verset 9, « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et cette verticalité est à ce point réelle qu'elle se vérifie aussi si nous la considérons à l'envers, du bas vers le haut, de la créature vers le créateur. Il faut toujours monter. Psaume 47, faites monter vers Dieu des cris de joie. Et c'est vrai que nous faisons monter nos prières, nos louanges ou nos supplications. Psaume 139, si je monte au ciel, tu y es. Et on retrouve ce principe dans le Nouveau Testament. Par exemple, 1 Pierre 3, verset 22, à propos du Seigneur Jésus, étant monté au ciel, Jésus-Christ s'est assis à la droite de Dieu. N'oublions pas d'ajouter qu'outre le fait d'être créateur, notre Père céleste est aussi législateur. Et on ne fait pas ami avec le législateur. Alors tout cela pour dire quoi ? Pour en venir où ? Eh bien, pour démontrer que l'amitié est une spécificité strictement humaine. C'est un lien exclusivement interhumain, un langage comportemental, un code sociétal propre aux créatures. Nous ne sommes plus avec l'amitié, dans la hauteur d'une verticalité, mais dans la largeur d'une horizontalité. Et c'est précisément cette horizontalité qui nous conduit à notre dernier développement. Grand C, le Fils de Dieu incarné, descendu et mis au rang de créature. Si nous nous référons au tout premier chapitre de la Genèse, nous voyons que tout dans la création est parfait, mais que la faute de la créature va créer un hiatus dans le rapport qui existait entre la verticalité et l'horizontalité. Aussitôt après le péché, si elle ne devient pas une rupture, la verticalité devient une forme de séparation. Je mets des guillemets. Désormais, la distance qui va s'établir entre le Créateur et sa créature est la même que celle qui sépare la mort de la vie éternelle. À propos d'horizontalité, une image assez saisissante. Écoutez bien le après et le avant. Juste après le péché, mais juste avant que ne soit énoncée la condamnation, juste après le péché, juste avant l'énoncé de la condamnation, il existe là un laps de temps où Dieu se place encore dans l'horizontalité avec sa créature. En effet, c'est dans le même espace horizontal, dans le même jardin d'Éden, que Dieu vient à la rencontre de l'homme qui vient de désobéir. Genèse chapitre 3, verset 8, nous lisons. Alors ils entendirent, ils, c'est Adam et Ève, qui viennent de deux péchés. Alors ils entendirent le Seigneur qui parcourait le jardin, d'autres versions qui se promenaient dans le jardin avec la brise du soir. C'est la dernière fois que nous voyons Dieu se promener ainsi sur un plan horizontal. À partir de là, la perspective d'un rétablissement dimensionnel ne se pourra se faire qu'au prix d'une médiation. Et cette médiation consistera en l'incarnation du Fils de Dieu, ce Fils de Dieu descendu en humanité, c'est-à-dire ayant parcouru la verticalité depuis le haut jusqu'en bas. Revenons à l'amitié. À aucun moment dans la Bible, le Père créateur n'a de sa bouche déclaré « Vous êtes mes amis ». À ma connaissance, jamais. Même si, ça est là, dans le livre de l'Exode, de Job, des Proverbes ou des Psaumes, l'homme use de la métaphore ou de la symbolique de l'amitié pour dire la proximité de son attachement à Dieu. C'est un effet de rhétorique. Exode 33, verset 11, « Dieu parlait à Moïse comme à un ami. » Comme à un ami. En tout cas, quelle que soit la tournure employée, cela ne relate jamais le fait d'une déclaration émanant directement de la bouche de Dieu. Eh bien, ce qu'à propos de l'amitié, Dieu n'a jamais déclaré, son Fils incarné, lui, l'a fait. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, Jésus, pleinement Fils de Dieu, et pleinement, parfaitement incarné à l'état d'homme, a déclaré, « Vous êtes mes amis, personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » De quelle amitié parle-t-on ? En quoi consiste l'amitié dont parle le Christ ? Il faut commencer par bien poser l'essentiel. Lorsque Jésus parle d'amitié, ce n'est pas une phrase jetée à la cantonade pour servir de pâture aux foules qui sont là. Non, non, non. Lorsque Jésus parle d'amitié, c'est uniquement à ses disciples qu'il s'adresse, à eux seuls. Qu'entend-on par disciples ? Eh bien, celles et ceux qui ont fait le choix définitif et personnel de poser leurs pas dans ses pas, de mettre en pratique ses commandements, de demeurer dans sa parole. C'est uniquement à ces consacrés-là, à ces engagés-là, que Jésus fait ou énonce une déclaration d'amitié. Deuxième observation. On peut très bien être en état d'amour total, ravageur, vis-à-vis de quelqu'un qui ne vous aime pas ou qui ne vous aime plus. Mais ça va encore plus loin. On peut être dans un état d'amour pathologique pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ignore tout de vous. C'est le principe même de beaucoup, de nombre de fans vis-à-vis de leurs idoles. En revanche, et nous l'avons dit, l'amitié, elle, se bâtit sur les fondements de la réciprocité. Souvenez, le dictionnaire dit « un attachement mutuel » et le psychologue dit « une construction commune ». Dernière observation. Un point singulier souligne le côté accessible de cette amitié dont parle le Seigneur. Et vous savez ce que c'est ce point ? C'est son absence de jalousie. Son absence de jalousie. Oh, vous savez, l'amour s'accommode relativement bien de la présence de la jalousie. Pas l'amitié, en tout cas, pas celle que nous propose ici le Fils incarné. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même se déclare jaloux. Exode 20, verset 15, « Je suis un Dieu jaloux ». Et plus loin, la formulation est plus excessive encore. Exode 34, verset 15, « L'Éternel porte le nom de jaloux ». Jamais dans les évangiles ou ailleurs dans le Nouveau Testament n'apparaît le mot de « jaloux » à propos de Jésus. Mais il faut avancer. Souvenez-vous, la question était « En quoi consiste l'amitié dont parle le Christ lorsqu'il s'adresse à ses disciples ?» Jésus, l'ami, c'est le salut et la vie éternelle en lui par ce qu'il s'est offert en rançon pour nous sauver. Mais Jésus, l'ami, c'est aussi tel un Jonathan, celui qui traverse l'infranchissable barrière de notre condamnation pour trouver le chemin de nos cœurs et nous offrir les paroles guérissantes de tous les possibles. Jésus l'ami, tel un Barzilaï bienveillant, c'est celui qui nous met au bénéfice abondant de sa compassion. Évidemment, Jésus l'ami, c'est l'assurance d'une présence constante et intime jusqu'à la fin du monde. Et on pourrait ainsi ajouter à cette magnifique liste pendant longtemps. La déclaration d'amitié que nous rapporte l'évangile de Jean est donc d'un type tout à fait inédit. Inédit. Qui en aucun cas ne peut se rapprocher d'un quelconque fond de soupe. C'est une formule nouvelle qui se situe à la confluence de la verticalité divine et de l'horizontalité humaine. C'est un ordre enfin rétabli par un lien indélébile où ces deux dimensions, loin de se contrarier, se mêlent et s'interpénètrent pour s'enrichir mutuellement jusqu'à la perfection. S'il fallait résumer en une formule, nous pourrions dire « En Christ, tout est accomplissement. » En Christ, tout est accomplissement. Jean 15, verset 13, « Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. » Amour, amis, réunis en un seul Christ. Tout est accompli. Ainsi, le Fils de Dieu, par sa médiation incarnée, aura connu pour nous la vie et la mort, tout comme il aura pour nous parcouru, traversé et visité le temps, l'espace et tout son spectre dimensionnel, la hauteur, la largeur, la profondeur. Tout est accompli. Alors, devant cet accomplissement parfait, interrogeons-nous. Moi, qui suis là et vous parle, est-ce que je suis disciple? Ai-je saisi? Ai-je accepté l'amitié à nul autre pareil qu'offre le Sauveur? Et toi? Es-tu disciple? As-tu chevillé au corps, à l'âme et à l'esprit le désir ardent d'être compté au nombre de ses amis? Laissons à l'apôtre Paul les mots de la fin. Épître aux Romains, chapitre 8. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Devinette.